Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag zullen we luisteren naar een recent gesprek met frère Dominique Joseph van de gemeenschap Famille de Saint-Joseph, familie van Sint-Jozef, in de jaren 90 opgericht door een Belgische priester, de priester Joseph-Marie Verlinde. Indien u meer te weten wil komen over de stichting van de gemeenschap, dan verwijs ik u graag door naar het internet en naar verschillende boeken door deze gemeenschap geschreven en gepubliceerd. Vandaag zullen we het in het bijzonder hebben over Sint-Jozef en de belangrijke plaats die hij inneemt in het leven van deze geestelijke familie. Ik heb eerst gevraagd aan frère Dominique Joseph om zich even voor te stellen aan ons.
Je suis effectivement moine dans la famille de Saint-Joseph, qui est une communauté fondée par le père Verlinde, ou Verlinde, comme vous dites, dans les années 90. Je suis moi-même bibliste et j'enseigne à l'Université catholique de Toulouse. Je suis professeur donc d'écriture sainte et aussi de Saint-Joseph.
Dus hij zegt, ja, het is zoals u zegt, ik ben monnik van de familie van Sint-Joseph, opgericht door de père Verlinde, die eigenlijk een Belg is, in de jaren 90. Verder geeft hij ook les in Toulouse als bijbelgeleerde en ook over Sint-Joseph. Ik vraag dan het volgende. Frère Dominique, hoe moeten we ons de familie van Sint-Jozef voorstellen?
Le cœur de notre spiritualité, c'est la vie à Nazareth, grandir en sagesse, en taille, en grâce, sous le regard de Joseph et de Marie, auprès du Seigneur Jésus. Et ce cœur-là se vit dans la consécration religieuse, c'est-à-dire que les moines et les moniales ont une vie selon la règle de Saint-Benoît. Nous vivons dans un monastère, et avec une ouverture apostolique, comme la Sainte Famille vivait dans le village de Nazareth, avec une ouverture sur la vie sociale de l'époque. Et autour du... J'ai fait une pause ici.
Oui. Dus hij zegt, ja, het hart van onze spiritualiteit is eigenlijk het leven van Nazareth. We volgen de regel van de heilige Benedictus, maar we hebben in navolging van Nazareth ook een openheid op het leven buiten, dus een apostolische openheid, om zo te zeggen, op de wereld.
Des familles nous ont vite rejoint, mais elles n'ont pas de vie communautaire. C'est aussi une caractéristique de la spiritualité que la famille est en soi une église domestique. La famille est en soi un lieu de vie, d'évangélisation, de prière. Et donc, chacune des familles vit chez elles et elles viennent se ressourcer au monastère.
Dus er zijn verschillende families die ook lid zijn van deze familie, om zo te zeggen. En zij wonen in hun eigen huis natuurlijk, omdat de familie al een eigen huiskerk vormt. En zij komen dan wel naar de gemeenschap om zich te herbronnen, om zo te zeggen.
Nous avons deux monastères, la maison mère, pourrait-on dire. C'est le sanctuaire Saint-Joseph de Montrouge, à côté de Béziers, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Et nous avons aussi une maison à côté de Lyon, à Saint-Joseph de Montluzin.
Dus we hebben twee kloosters, zegt hij, één in het zuiden, in Montrouge, in de Méditerranée, en ook één in Montluzin, dat is tegen Lyon.
Les familles qui font partie de la famille de Saint-Joseph sont dans toute la France et même plus largement. Elles sont regroupées par des fraternités, par région, donc dans différentes régions de France, mais aussi au Canada ou ailleurs. Chacun a son rythme propre.
Dus hij zegt, ja, de families bevinden zich over heel Frankrijk. We hebben ook, ja, fraternités, om zo te zeggen, per regio. Maar ook buiten de Franse grenzen, bijvoorbeeld in Canada en ook nog op andere plaatsen, zijn er families verbonden met de familie van Saint-Joseph. Zelf bent u lid van de familie van Sint-Jozef, maar ook priester en religieus binnen de congregatie. Wilt u ons ook wat meer vertellen over de specifieke levenswijze van jullie congregatie? Vraag ik dan.
Nous vivons la règle de Saint-Benoît de manière tout à fait traditionnelle, en respectant les horaires des offices. Nous aimons beaucoup la liturgie, le déploiement liturgique, ce qui est caractéristique de la famille bénédictine. Nous avons rajouté certaines choses, comme par exemple l'adoration permanente ou la prière quotidienne du rosaire, qui ne sont pas explicitement demandées par Saint-Benoît. Mais nous sommes dans cette manière apostolique de vivre la règle de Saint-Benoît, qui a caractérisé souvent les moines d'ailleurs dans l'histoire, et il y a même eu des branches bénédictines qui étaient des bénédictins paroissiaux, comme on les appelait à l'époque. Donc nous sommes plutôt dans cette dimension-là, puisque nous avons en charge les villages autour du monastère. Nous avons 70 clochers dont nous sommes responsables pour la vie paroissiale, le père abbé et le père curé de ces villages.
70 clochers, c'est beaucoup.
Oui, c'est énorme, ça fait 120 km de large, c'est quasiment le tiers du diocèse, c'est en campagne, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a beaucoup de villages.
Oui, et vous êtes combien de prêtres dans la communauté pour faire cela?
Nous sommes cinq prêtres, mais ça ne compte pas vraiment comme ça parce que nous sommes deux professeurs, donc on est plutôt à l'université, ce qui veut dire qu'en paroisse, il n'y a que trois prêtres.
Oui.
Nous, on donne un petit coup de main, mais ce n'est pas la peine de nous compter parce qu'on ne fait pas grand-chose.
Oui. Dus ik heb hem gevraagd over te spreken over de regel van Benedictus. Dus hij zegt, ja, we volgen de liturgische tijden natuurlijk. Iets dat we hebben toegevoegd dat niet letterlijk in de regel van Benedictus staat, is de gedurige aanbidding. Maar we zijn dus ook apostolisch, zoals dat in het verleden door veel Benedictijnen ook al beleefd is. Zo helpen we in de parochies rondom. Hij zegt dat er 70 kerkklokken, om zo te zeggen, zijn die vallen onder hun verantwoordelijkheid. En de gemeenschap telt maar 5 priesters, waarvan nog eens 2 leraars. Dus het is wel een enorm gebied waar ze de mensen helpen. Jullie dragen een habit. Kan u ons daar iets over vertellen? Is het Benedictijns?
Dans la découpe, c'est l'habit bénédictin avec une bure, un scapulaire, un rosaire à la ceinture. Mais dans les couleurs, nous avons choisi des couleurs qui sont pour nous caractéristiques de notre spiritualité à Nazareth, c'est-à-dire le brun pour la bure et un brun foncé pour le scapulaire. En fait, c'est le même brun que le carmel.
Het habit heeft de vorm van een benedictijns habit, maar ze hebben gekozen voor het bruin. Het verwijzend naar Nazareth en ook het scapulier donkerbruin verwijzend naar de karmel. Dan vraag ik hem of hij ons iets meer kan vertellen over het symbool of het logo dat ze hebben en dat u kan terugvinden op onze website. Het gaat om een kruis met een ronde in het midden en dan de J, de M en een hart daarboven.
L'intuition fondatrice de notre communauté est ce qu'on appelle l'union des trois cœurs, c'est-à-dire que les trois cœurs de Jésus, Marie et Joseph sont unis dans un même amour et au point d'en être indissociables. C'est un même mystère qui se révèle dans cet amour partagé, dans cet amour commun. Il ne faut pas oublier que la Sainte Famille est l'image sur la terre de la vie trinitaire.
Dus hij zegt, de intuïtie bij de stichting van onze gemeenschap was de vereniging van de drie harten. En dit betekent dat de drie harten, het hart van Jezus, Maria en van Jozef, verenigd zijn in één en dezelfde liefde en dat ze daar zelfs onafscheidelijk van zijn. Het is één en hetzelfde mysterie dat zich openbaart in deze gedeelde liefde. De Heilige Familie is het beeld van de goddelijke drie-eenheid hier op aarde.
Nous avons ainsi dans notre logo, à l'extérieur, une croix qui montre que l'unité des évangiles. Il n'y a pas pour nous d'abord les évangiles de l'enfance et après la vie publique, mais tout l'évangile est unifié et Jésus est lui-même l'enfant qu'il place au milieu. Il est l'enfant entre Marie et Joseph, comme il est l'enfant innocent entre les deux larrons sur la croix. Et cette unité se vit dans l'Eucharistie. Vous voyez qu'au centre de la croix, il y a un grand rond. C'est le cercle du cœur eucharistique de Jésus. Nous avons l'adoration permanente. L'Eucharistie est très, très forte dans notre spiritualité. Et ensuite, le monogramme. Vous avez à l'extérieur le grand J, qui est celui de Saint-Joseph. dont le tracé explique que Joseph est le protecteur. Il entoure et il protège par-dessus, il offre son toit en quelque sorte à Marie et à Jésus. Puis nous avons le M de Marie, et au-dessus du M repose le Sacré-Cœur de Jésus pour dire que Marie porte l'enfant, et l'enfant est représenté par son cœur transpercé sur la croix avec la blessure ouverte sur le côté.
En daarom is er in ons logo aan de buitenkant een kruis als teken van de eenheid van de evangelie. Er is geen verschil tussen de kindertijd en het publieke leven van Jezus. Heel het evangelie vormt een eenheid. Jezus is het kind in het midden tussen Jozef en Maria, maar ook de onschuldige aan het kruis tussen de twee moordenaars. En deze eenheid kunnen we zien in de Eucharistie. In het midden van het kruis is een grote ronde, een cirkel, rond het Eucharistisch hart van Jezus getrokken. Die staat ook voor de Eucharistie. Wij doen aan gedurige aanbidding hier. De Eucharistie is heel belangrijk en heel sterk in onze spiritualiteit. En dan is er ook nog het monogram. Aan de buitenkant een grote J die de M van Maria en het hart van Jezus omringt en beschermt. Binnen in die J bevindt zich dan de M van Maria en daarboven rust het heilig hart van Jezus, om zo te zeggen. Het kind dat Maria draagt. En dit kind wordt voorgesteld door zijn hart, doorboord op het kruis, met aan de zijkant de open wonden. Genezingsretretes nemen een belangrijke plaats in de spiritualiteit en in het apostolaat van de familie van Sint-Jozef. Jullie bieden deze genezingsretretes aan de mensen. Het is een belangrijk stuk van jullie apostolaat. Wat is nu de plaats van de heilige familie en meer bepaald van Sint-Jozef in het proces van innerlijke genezing?
Il y a une forte unité dans notre manière de vivre et dans notre apostolat, et tout vient de Saint-Joseph. Je vous ai parlé de la règle de Saint-Benoît. Nous l'avons choisie parce que Saint-Benoît dit au début de la règle que le Père Abbé est comme un père au milieu de ses fils, et qu'il voyait les monastères comme des laboratoires de la charité. Et donc, pour nous, c'était vraiment une indication que le modèle était celui de Saint-Joseph ayant autorité sur cette maison de la charité qui est celle de la Sainte Famille à Nazareth. Et de même, Saint-Joseph, et on en a une belle illustration avec la lettre apostolique que le pape François a publiée au mois de décembre, le 8 décembre, Patrice Cordet, où il met bien en relation la guérison intérieure et Saint-Joseph. Saint-Joseph est le père qui guérit, particulièrement en notre temps, qui est malade de la paternité. On ne veut plus de pères, on tue les pères, on dénigre les hommes d'une manière générale, mais particulièrement dans leur paternité. Or, nous avons tous besoin de cette paternité, de la même manière que nous avons tous besoin de la maternité de la Sainte Vierge, nous avons besoin de la paternité de Saint-Joseph. Et cela, c'est l'Évangile qui nous le dit. Vous voyez par exemple que, au pied de la croix, le Seigneur Jésus nous donne Marie pour mère. Il dit à Saint Jean, « Voici ta mère ». Et en Saint Jean, évidemment, c'est chaque disciple qui est appelé à recevoir Marie pour mère. Et je dirais, c'est une question qui ne se discute pas. Il nous informe que Marie est notre mère et il nous la donne comme mère. À nous de l'accepter ou de la refuser, mais il nous la donne.
Dus frère Dominique zegt, er is een grote eenheid tussen onze manier van leven en ons apostolaat. En alles komt van Sint-Joseph. Ik heb u al gesproken over de regel van Sint Benedictus die we hebben gekozen, omdat de heilige Benedictus aan het begin van zijn regel zegt dat de abt van het klooster een vader is te midden van zijn zonen. En hij zag de kloosters als laboratoria, als werkplaatsen van naaste liefde. Voor ons was het een duidelijke aanwijzing dat ons voorbeeld Sint-Joseph hierin is. Sint-Joseph, die de autoriteit heeft over het huis van naaste liefde, dat het huis van de heilige familie in Nazareth is. En zo is Sint-Joseph. Wij hebben er een mooi voorbeeld van gekregen in de apostolische brief van Paus Franciscus in december, Patris Cordae, verbonden met de innerlijke genezing. Sint-Joseph is de vader die geneest, in het bijzonder in onze tijd die ziek is in het vaderschap. Men wil de vaders niet meer. Men vernietigt het vaderschap. Men denigreert mannen ook in het algemeen, maar vooral in hun vaderschap, waar men niet van wil weten. En dat terwijl we allemaal nood hebben aan dit vaderschap. Zoals we allemaal nood hebben aan het moederschap van onze lieve vrouw, hebben we ook allemaal nood aan het vaderschap van Sint-Jozef. Dit wordt ons in het evangelie gezegd. We zien hoe Jezus Maria aan de voet van het kruis als moeder geeft aan de heilige Johannes. En met Johannes is elke volgeling dus geroepen om Maria als moeder te ontvangen. Het is geen discussiepunt. Jezus deelt het ons mee dat zij onze moeder is en hij geeft ons haar als moeder. Het is aan ons om haar al dan niet als moeder te aanvaarden en te ontvangen.
Pour Saint Joseph, la situation est un peu différente. À aucun moment il ne nous donne Saint Joseph pour père. Par contre, on voit dans l'épisode du recouvrement au temple, qui est la dernière apparition de Saint Joseph dans l'Évangile, le Seigneur Jésus qui dit « Je dois être aux affaires de mon père » et qui aussitôt après descend à Nazareth où il est soumis à l'autorité de Saint Joseph. Ce qui veut bien dire que pour lui, être aux affaires de son père du ciel, c'est être fils de Saint Joseph à Nazareth. C'est le début. Bien sûr, il y aura la vie publique par la suite, mais le premier geste qu'il pose est celui-là, et nous y voyons une invitation à suivre Jésus à Nazareth, car c'est dans ce lieu-là que tout se joue, avant la vie publique comme après la vie publique. Vous vous souvenez que les anges de la résurrection disent aux apôtres qui sont un peu décontenancés, « Allez en Galilée, c'est là que le ressuscité vous attend, c'est là que vous le verrez ». Donc il y a un mouvement qui est celui de se soumettre à l'autorité de Saint Joseph, et ce mouvement-là du Seigneur Jésus, comme du Christ ressuscité, nous invite à choisir Saint Joseph comme père. Et c'est là quelque chose de très original auquel on n'est pas habitué, mais qui est attesté dans l'Évangile à plusieurs reprises. Une mère se reçoit, un père se choisit.
Voor Saint Joseph is het een beetje anders. Op geen enkel moment geeft Jezus ons hem als vader. Maar bij de wedervinding van Jezus in de tempel, waar Jozef voor het laatst verschijnt in het evangelie, zegt Jezus, ik moet me bezighouden met de zaken van mijn vader. En vervolgens keert hij met zijn ouders terug naar Nazareth, waar hij zich onderwerpt aan het gezag van Sint Jozef. En dit toont dat voor hem zich bezighouden met de zaken van zijn vader betekent zoon zijn van Sint-Jozef in Nazareth. En dat is het begin. Natuurlijk zal het publieke leven nog volgen, maar het eerste wat Jezus doet, is dit. En het is een uitnodiging om Jezus te volgen in het leven van Nazareth, waar alles zich afspeelt voor het publieke leven begint. Maar ook daarna. We herinneren ons hoe de engelen tegen de apostelen zeggen, bij de verrijzenis, ga naar Galilea, daar zal u de verrezene vinden. Er is dus in het evangelie een beweging om zich te onderwerpen aan het gezag van Sint Jozef. En deze beweging, zowel van het kind Jezus als van de verrezen Christus, nodigt ons uit om Sint Jozef als onze vader te kiezen. Dit is iets origineel, dit idee is iets zeer origineel dat we niet gewend zijn om te horen, maar dat in het evangelie eigenlijk meermaals wordt bevestigd. Een moeder ontvang je en een vader kies je.
Vous avez par exemple dans l'évangile de Saint Jean une discussion vive entre Jésus et des disciples qui se disent fils d'Abraham. Et Jésus leur répond, vous voulez me tuer, si vous étiez fils d'Abraham, vous ne comploteriez pas ma mort, vous êtes en réalité des fils de Satan. Ce qui montre bien que la généalogie n'est pas en cause dans cette affaire. En se référant à Abraham et Jésus en les dénonçant comme des fils de Satan, il dit que les actes que nous posons révèlent le Père que nous avons choisi. Et on a un autre passage qui est celui de Jésus au Jourdain pour le baptême. Aussitôt après que la voix céleste ait dit « Voici mon fils bien-aimé », le Seigneur est poussé par l'Esprit-Saint au désert où il va être tenté. Et la tentation se révèle ainsi comme le lieu ou l'occasion de choisir Dieu pour Père, puisque les trois tentations qu'il va subir sont des invitations à agir d'une certaine manière. Tu pourrais te jeter du haut du temple et les anges te rattraperaient, etc. Et chaque fois, le Seigneur agit en fils, c'est-à-dire montre qu'il choisit d'être le Fils du Père. Donc, je crois qu'en nous conduisant à Nazareth, en choisissant dans l'épisode du recouvrement au Temple l'autorité de Saint Joseph, le Seigneur Jésus nous invite à reconnaître en Joseph et en Marie les parents dont notre foi a besoin pour choisir et pour vivre la paternité divine liée à notre baptême.
In het evangelie van Johannes bijvoorbeeld is er een passage met een levendige discussie tussen Jezus en enkele volgelingen die zich kinderen van Abraham noemen. En Jezus antwoordt hem: jullie willen mij doden. Als jullie zonen van Abraham waren, zouden jullie niet over mijn dood beraadslagen. In werkelijkheid zijn jullie kinderen van Satan. Dit toont dat niet zozeer de genealogie in vraag wordt gesteld, maar dat de daden die we doen, de vader onthullen die we zelf gekozen hebben. In een andere passage, wanneer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan en de vader zegt: dit is mijn welbeminde zoon in wie ik welbehagen heb, wordt hij vervolgens naar de woestijn gedreven door de Heilige Geest, waar hij bekoringen zal ondergaan. En deze bekoringen van de duivel doen zich voor als gelegenheden om God al dan niet als vader te kiezen. De drie bekoringen zijn uitnodigingen om op een bepaalde manier te handelen. En elke keer handelt Jezus als zoon. Hij toont dat hij ervoor kiest om de zoon van zijn vader te zijn. En ik geloof dus dat door ons naar Nazareth te begeven en door daar het gezag van de heilige Jozef te accepteren, Jezus ons uitnodigt om in Maria en Jozef de ouders te erkennen waar ons geloof nood aan heeft. Om te kunnen kiezen voor het goddelijke vaderschap dat verbonden is met ons doopsel.
Et donc, le ministère de guérison est un ministère d'abord de réconciliation avec soi, avec sa vocation baptismale, avec son humanité, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, on obéit à ses passions, aujourd'hui on méprise son corps, il a beau être exalté comme un objet de jouissance, il n'est pas intégré dans la personnalité, on le prend comme un objet souvent maltraité. De même pour le psychisme, les familles sont déchirées, aucune de nos familles n'est épargnée par les divorces, par les disputes, par certains drames familiaux propres à notre temps. Et ce qui fait que, qui que nous soyons, quel que soit notre milieu d'origine, nous portons tous dans notre corps et dans notre psychisme une mémoire douloureuse qui nous empêche de choisir pleinement Dieu pour Père. Je prends un exemple extrêmement caricatural, mais imaginons une personne qui a eu un père alcoolique et violent. Comment voulez-vous qu'elle dise « notre Père qui est aux cieux » ? Dès qu'on dit « notre Père », on réveille d'abord la mémoire du papa que nous avons eu et on réveille la mémoire de la petite enfance et de ses relations fondamentales avec le père et la mère. Et donc, la retraite de guérison intérieure, c'est un chemin d'accueil de la grâce de Nazareth dans l'histoire blessée de nos vies et particulièrement d'avoir l'occasion de recevoir Marie pour mère et de rechoisir Saint Joseph pour père afin d'être libre d'aimer, libre de suivre Jésus sur les chemins où il nous conduit.
En dus zo'n genezingsretraite is in de eerste plaats een verzoening met zichzelf, met de roeping bij het doopsel ontvangen. Een verzoening met eigen menselijkheid, lichaam, ziel en geest. Vandaag gehoorzaamt men aan zijn passies, respecteert men zijn lichaam niet, misprijst men het zelfs. Het wordt verheerlijkt als een genotsobject. Het lichaam wordt niet in de persoon geïntegreerd. Men ziet het vaak als een slecht behandeld voorwerp. En ook op psychologisch vlak worden de families verscheurd. Geen enkele van onze families wordt gespaard van scheidingen of ruzies of familiedrama's die eigen zijn aan deze tijd. Dit maakt dat wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is, we allemaal, zowel in ons lichaam als in onze psyche, een pijnlijke herinnering dragen die ons verhindert om volledig voor God als onze vader te kiezen. Ik geef u een beetje een karikaturaal voorbeeld van iemand met een alcoholistische en gewelddadige vader. Hoe wil je dat dat kind zegt, Onze Vader die in de hemel zijt. Want vanaf we het woord Vader in de mond nemen, moeten we denken aan het vaderbeeld dat we zelf in onze jeugd hebben ontvangen en dat we in onze herinnering meedragen. De retraite van innerlijke genezing is een weg om de genade van Nazareth in de meest gekwetste plaatsen van ons leven te ontvangen. En daarbij Maria als moeder ontvangen en Sint-Jozef als vader kiezen, zodat we vrij worden om te beminnen en Jezus te volgen op de weg waarheen hij ons leidt. We luisteren even naar een Frans Sint-Jozef lied en luisteren daarna verder naar het gesprek met Frère Dominique Joseph. En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we luisteren vandaag naar een gesprek met priester en broeder Dominique Joseph van de familie van Sint-Jozef in Frankrijk. Frère Dominique is, zoals hij al aanhaalde, bijbeldeskundige, maar onderwijst ook Josephologie. En daarom vraag ik hem of hij ons, naast de plaats die Sint-Jozef heeft in de innerlijke genezing, nog iets anders wil meegeven over Sint-Jozef.
Il y a deux expressions qui sont, à mon avis, suffisantes pour tout dire de Saint-Joseph. La plus récente est celle du pape François qui nous dit que Joseph est un cœur de père. C'est magnifique comme expression, un cœur de père. Et effectivement, c'est la paternité qui résume le mieux Saint Joseph. Mais Jean-Paul II est plus fin théologien, et il faut dire qu'il était philosophe. Lui, dans l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, qui est parue en 1989, définissait Saint Joseph comme le gardien du Rédempteur, Redemptoris Custos. Ce qui spécifie plus exactement quel père est Saint Joseph, c'est un père en tant qu'il est serviteur. C'est la paternité vécue comme un service. C'est-à-dire que toute la vie, tout l'être de Saint Joseph est consacré au Seigneur Jésus. Il a renoncé à tout. Il n'a même pas, par exemple, rêvé d'être un grand homme. Qui ne rêve pas d'accomplir quelque chose dans sa vie? Saint Joseph s'est dépouillé de tout pour être disponible à ce que Dieu voudrait. Et en voulant se faire exclusivement le serviteur de Dieu, eh bien, il a reçu autorité sur Dieu lui-même, en particulier sur le Verbe incarné. Donc, cette manière de voir la paternité comme un service est en soi déjà, je trouve, une réconciliation et une guérison. Parce qu'on nous martèle, et nul n'échappe à la société dans laquelle il vit, on nous martèle des mots qui sont devenus péjoratifs, comme le patriarcat, comme l'obéissance, comme la loi, et on les présente comme des empêchements à notre liberté. Alors que c'est le contraire. Le Père, c'est celui qui donne la parole qui structure, qui met en liberté et qui donne les moyens d'accomplir sa propre vocation.
Dus hij zegt, er zijn twee uitdrukkingen die volgens mij voldoende zijn om alles over Sint-Joseph te zeggen. En één ding daarvan is recent door Paus Franciscus gezegd, namelijk dat Sint-Joseph het hart van een vader heeft. Het is een prachtige uitdrukking, het hart van een vader. Het vaderschap definieert Sint-Joseph dus het beste. Paus Johannes Paulus II, die een zeer verfijnde theoloog en ook filosoof was, definieerde Sint-Joseph in zijn apostolische exhortatie Redemptoris Custos als de bewaarder, de bewaker van de verlosser, de beschermer van de verlosser. Dit verfijnt wat voor vader Sint-Joseph is. Namelijk een vader in de mate dat hij ook dienaar is. Hij beleeft het vaderschap als een dienstwerk. Heel het leven en wezen van Sint-Joseph is toegewijd aan Jezus. Hij heeft alles verloochend. Hij heeft er zelfs niet van gedroomd om iets bijzonders te doen of te zijn in zijn leven. Hij heeft zich van alles ontdaan om volledig beschikbaar te zijn voor wat God van hem verlangde. En omdat hij alleen maar Gods dienaar wenste te zijn, heeft hij het gezag ontvangen over God zelf, namelijk over het vlees geworden woord. Het vaderschap zien als een dienstwerk is in zichzelf al een verzoening en een genezing. Omdat men ons op verschillende manieren slaat in deze tijd met woorden die negatief zijn geworden, zoals het patriarchaat, de gehoorzaamheid en de wet, die men nu voorstelt als beperkingen van onze vrijheid, terwijl zij het tegenovergestelde zijn. De Vader is Hij die het woord geeft dat structuur brengt. Het woord dat in vrijheid stelt. En diegene die de middelen geeft aan zijn kind om zijn eigen roeping te volgen.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est dans le livre du Deutéronome, où Dieu est face à la révolte des Hébreux qui sont là, errés dans le désert, et ils ne connaissent pas, enfin, c'est autour de l'épisode du veau d'or, vous voyez, de l'idolâtrie. Et Dieu essaye de leur faire comprendre que c'est lui qui les guide, c'est lui qui les libère. Et pour se faire comprendre, il dit: je suis celui qui ressemble à ton père. Souviens-toi comme il te portait sur son épaule, eh bien de la même manière, moi je te porte sur mon épaule. Et voyez, là on est vraiment dans l'humilité extrême de la paternité de Dieu, qui ne parle jamais en référence à lui-même, qui commence par dire « je ressemble à ton papa ». Et il dit ça aussi à Jésus. Et en Jésus, et il nous dit à tous, je suis celui qui ressemble à Saint Joseph, le papa de Jésus. Et ensuite, si on suivait ce fil rouge, et je vous en fais la grâce parce que j'ai déjà été trop long, on verrait comment tout au long de l'Ancien Testament, Saint Joseph attend d'être reconnu comme père. Ce n'est jamais une paternité qui s'impose, ça n'est jamais un diktat qui nous oriente et qui nous contraint, mais c'est au contraire une attente silencieuse, discrète, où le bon Dieu regarde grandir son peuple dans sa recherche de liberté, dans sa recherche de Dieu, de vérité, de justice, et qui semble dire « mais quand est-ce qu'ils vont découvrir que je suis leur père? Quand est-ce qu'ils vont me faire la joie de m'appeler père ?» Et c'est Jésus, évidemment, qui ultimement répond à cette attente de Dieu lorsqu'il dit à ses disciples « quand vous priez, dites « notre Père, il attend que ça ». C'est la seule chose qui peut le rendre vraiment heureux, c'est qu'enfin on se reconnaisse comme ses enfants et qu'on lui dise avec gratitude « notre Père ».
Er is een passage waar ik veel van houd in het boek Deuteronomium en waarbij het volk in opstand komt tegen God. Het is ook de passage van het gouden kalf. En God probeert hen te doen begrijpen dat hij het is die hen leidt en wil bevrijden. En hij zegt, ik ben degene die lijkt op je vader. Herinner je hoe hij je op zijn schouder droeg? Zo draag ik je ook op mijn schouder. En daar zien we de extreme nederigheid van het vaderschap van God. Hij refereert nooit naar zichzelf, maar hij zegt, ik lijk op je papa. En dat zegt hij ook tegen Jezus. En door Jezus zegt hij het tot ons allen. Ik ben hij die lijkt op Sint Jozef, de vader van Jezus. En als we deze rode draad volgen, doorheen het Oude Testament, zien we hoe Sint Jozef erop wacht dat we hem erkennen als vader. Het is nooit een vaderschap dat zich opdringt, een dictaat dat ons wil oriënteren of beperken. Maar het is integendeel een stil en discreet afwachten, waarbij de Heer zijn volk ziet groeien in zijn zoektocht naar God en de waarheid, en zich daarbij afvraagt, wanneer gaan ze ontdekken dat ik hun vader ben? Wanneer gaan ze me de vreugde schenken van mijn vader te noemen? En Jezus beantwoordt natuurlijk uiteindelijk die verwachting van God wanneer hij aan zijn discipelen leert om te bidden met de woorden Onze Vader. God wacht enkel daarop. Dat alleen maakt hem gelukkig. Namelijk dat we hem als onze Vader erkennen en hem zo noemen. Dan vraag ik het volgende aan Frère Dominique Joseph. U spreekt over het vaderschap in crisis in deze tijd. Is het vaderschap in grotere crisis dan het moederschap?
Alors, je parlais de la paternité au sens générique, au sens où elle vient de Dieu, et qui donc se révèle dans la paternité aussi bien que dans la maternité, et dans leur complémentarité, c'est entendu. Oui. Cependant, il faut reconnaître que depuis les années 70, c'est le papa qui est visé particulièrement, et par là, la mère est visée elle aussi. Par exemple, il y avait une chanson dans les années 80, vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas né sans doute, où on disait « elle a fait un bébé toute seule ». Or ça, c'est un mensonge anthropologique. Aucune femme ne peut faire un bébé toute seule. Elle a besoin d'une alliance, elle a besoin de l'engagement d'un homme à ses côtés, la Vierge Marie y compris. Saint Joseph n'a pas contracté un mariage de convenance pour satisfaire à la bienséance de la société de l'époque, c'est que Marie, pour s'engager dans son fiat, a besoin d'un homme qui dit « je m'engage à tes côtés et je m'engage à ton service ». Si elle n'avait pas été mariée, l'archange n'aurait pas pu lui proposer la maternité divine. Donc c'est autant la paternité que la maternité qui sont attaquées, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, en invitant les gens à se redéfinir eux-mêmes, par exemple en leur donnant l'illusion qu'ils peuvent choisir leur propre sexe, tout simplement, eh bien, on les blesse dans le rapport de la parole de laquelle on se reçoit. Je prends cet exemple-là, qui est très récent, mais qui est extrêmement violent et douloureux, de ces gens qui sont malheureux au point et qui souffrent au point de vouloir subir une intervention chirurgicale pour faire changer leur sexe. Et souvent, ils changent de nom, évidemment. et en changeant de nom, c'est-à-dire en se nommant soi-même, on rejette l'idée même de la paternité. Quand on s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Jean, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce n'est pas la question. C'est que c'est le nom que le père a donné. C'est le père qui reconnaît l'enfant et qui le situe dans la société, qui le situe dans les rapports humains. Donc c'est la première et la plus violente, la plus profonde sans doute des blessures dont nous souffrons aujourd'hui à différents degrés. J'ai cité un exemple extrême, mais à différents degrés, toutes les familles vivent cette souffrance-là. Et vous voyez qu'elle touche ensuite, par là même, elle touche la maternité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant qui est défini comme un projet? Ça veut dire qu'on a réussi à convaincre les femmes qu'elles n'étaient que des mères porteuses. On a réussi à défigurer la maternité au point de faire croire qu'un enfant, c'était le projet d'une personne, que c'était le désir, le fruit du désir d'une personne. Non, pas du tout. Or ça, eh bien, ça ne peut s'inculquer dans le cœur des femmes, malheureusement, que si on a d'abord détruit l'image du père et détruit la conviction que le couple, homme et femme, a besoin d'être constitué pour accueillir l'enfant.
Ik heb gesproken over het vaderschap zoals we dat van God ontvangen en dat zich zowel in de vader als in de moeder openbaart en natuurlijk in hun complementariteit. Maar we kunnen wel stellen dat sinds de jaren 70 de vader vooral geviseerd wordt en daarom wordt ook de moeder geviseerd. Zo was er in de jaren 80 een lied waarin men zong: zij heeft zelf een baby gemaakt. Maar dat is een antropologische leugen. Een vrouw kan nooit alleen een baby maken. Ze heeft nood aan een verbond, aan het engagement van een man aan haar zijde. De Maagd Maria inbegrepen. Sint Jozef is niet met haar getrouwd voor de vorm, omdat het nu eenmaal zo hoorde in die tijd. Maar omdat Maria, om haar fiat waar te maken, nood had aan een man die zich aan haar zijde engageerde en zich over haar ontfermde. Als ze niet zou trouwen, zou de engel haar niet hebben kunnen vragen de moeder van God te worden. Zowel het vader als het moederschap worden in deze tijd aangevallen. Maar doordat men de mensen vandaag uitnodigt om zichzelf te herdefiniëren en hen zo bijvoorbeeld de illusie te geven dat ze zelfs hun eigen geslacht kunnen kiezen, worden de mensen gekwetst in de verhouding tot het woord waarin men zichzelf ontvangt. Zo'n moeilijke zin, maar ik neem dit als voorbeeld, omdat het zeer eigentijds is, maar zeer gewelddadig en droevig. Een voorbeeld van mensen die diep ongelukkig zijn en in die mate lijden, dat ze een chirurgische ingreep willen ondergaan om van geslacht te veranderen, en vaak daarbij natuurlijk ook hun naam veranderen. En door van naam te veranderen en zichzelf een naam te geven, verwerpt men ook het vaderschap zelf. Of we nu Pierre, Paul, Jacques of Jean heten, en of we dat nu leuk vinden of niet, is niet echt de vraag. Het gaat erom dat het de naam is die we van onze vader krijgen. De vader erkent zijn kind en brengt het in de samenleving binnen en in de menselijke relaties. Het is dus de eerste en meest diepe wonde waaraan we in deze tijden lijden. En in verschillende mate natuurlijk. Want wat ik net zei is een extreem voorbeeld, maar toch lijden we er allemaal in bepaalde mate onder. En deze vaderwonde raakt ook het moederschap aan. Dat zien we wanneer het kind gezien wordt als een project. Men is erin geslaagd om vrouwen te overtuigen dat ze slechts draagmoeders zijn. Men heeft het moederschap misvormd door te doen geloven dat een kind het project of de vrucht van het verlangen is van één persoon, maar dat is het kind natuurlijk helemaal niet. En dit heeft zich helaas in de harten van de vrouwen kunnen vastzetten, doordat men het beeld van de vader heeft vernietigd en ook de overtuiging heeft vernietigd dat het koppel, man en vrouw, nodig is om een kind te kunnen ontvangen. U sprak in het begin, Frère Dominique Joseph, over de eenheid van de drie harten van Jezus, Maria en Jozef. Als ik het goed begrijp, Zijn zij het medicijn?
La guérison passe par le choix de Marie pour par l'accueil de Marie pour mère et le choix de Joseph pour père. C'est comme ça qu'on va guérir les familles, donc qu'on va guérir la société, mais plus largement qu'on va guérir l'Église. Le pape François le dit dans la lettre du mois de décembre, l'Église aussi est en crise de paternité. La paternité des prêtres et des évêques est aussi un lieu douloureux aujourd'hui, un lieu à réinvestir et à redécouvrir. Et en s'approchant ainsi de Marie et de Joseph, en se situant comme leur enfant dans la vie de la grâce aussi bien que dans la vie terrestre, eh bien, on peut découvrir l'amour ardent qui les unit au Sacré-Cœur. Le centre de tout, la source de tout, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et en voyant comment Marie aime Jésus, en demandant à Marie de mettre dans notre cœur l'amour pour Jésus, en voyant comment Joseph aime Jésus, en demandant à Joseph de mettre dans notre cœur son amour pour Jésus, alors on rentre au paradis littéralement. Parce que qu'est-ce que c'est que le paradis, sinon de vivre dans le brasier ardent qu'est le cœur de Jésus. Donc oui, la guérison passe par là, et on l'appelle guérison, on peut l'appeler glorification, on peut l'appeler sanctification, peu importe le vocabulaire ou le chemin qu'on envisage, mais c'est en étant uni au cœur de Jésus que l'homme trouve sa béatitude.
De genezing komt voort uit het ontvangen van Maria als moeder en de keuze van Sint-Josef als vader. Zo kunnen de families en de samenleving genezen, maar zeker ook de kerk. Paus Franciscus heeft het gezegd in de brief van december dat de kerk ook in een vaderschapscrisis is. Een crisis van het vaderschap van de priesters en de bisschoppen. Het vaderschap is daar ook een pijnlijke plaats waarin er opnieuw geïnvesteerd moet worden en die opnieuw ontdekt moet worden. Door zo te naderen tot Maria en Jozef en ons als kind van hen op te stellen, zowel in het geestelijke als in het aardse leven, kunnen we de vurige liefde ontdekken die hen verbindt met het heilig hart van Jezus, die het centrum en de bron van alles is. Door te zien hoe vurig Maria en Jozef hen beminnen en door hen te vragen om in ons hart diezelfde liefde voor Jezus te brengen, komen we letterlijk het paradijs binnen. Want wat is het paradijs anders dan te leven in de brandende vuurhaard van liefde die het hart van Jezus is? Dus ja, de innerlijke genezing gaat langs deze weg. En we noemen het genezing, maar kunnen het ook verheerlijking of heiliging noemen. De woordkeuze doet er hier niet toe. Maar het gaat om de vereniging met het hart van Jezus. Daarin vindt de mens zijn gelukzaligheid. Ik vraag dan nog het volgende. Frère Dominique Joseph, het feit dat jullie gedurende aanbidding doen, komt ook voort vanuit deze overtuiging dat het ware geluk ligt in de vereniging met het hart van Jezus.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. On ne peut aimer Jésus sans le connaître, on ne peut connaître une personne sans passer du temps auprès d'elle. Donc être présent chaque jour à l'adoration, c'est déjà entretenir l'amitié. Mais le fond de notre mouvement, c'est un souci de consoler le cœur de Jésus parce qu'il est méprisé. Et donc là, on peut penser aux apparitions à Parelmonial, hein, à Sainte Marguerite Marie à la Coque, évidemment, qui a beaucoup de place aussi dans l'histoire de notre communauté. Et donc, nous sommes là pour dire à Jésus, au nom des âmes qui le méprisent, qui se détournent de lui, qui le blessent, y compris nous-mêmes qui sommes pécheurs, pour lui dire notre pauvre amour est tout à lui. Nos pauvres vies sont tout à lui. C'est un ministère d'adoration et de consolation. Et ce ministère-là a une vertu transformatrice. C'est-à-dire qu'au plus on entre dans la contemplation, au plus on s'enracine dans la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Parce qu'on parle souvent du silence de Saint Joseph, mais Marie n'est guère bavarde. L'Évangile rapporte quelques phrases d'elle, pas plus, et ce qu'on dit surtout, c'est qu'elle gardait les choses en silence dans son cœur. C'est surtout ça qu'on nous dit de la Sainte Vierge. Et donc, on a ce mouvement de silence qui est un mouvement de vie contemplative et qui témoigne que l'humilité de Joseph et de Marie, cette humilité-là s'enracine dans la contemplation de Dieu en tant qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est transcendant, qu'il est grand, qu'il est le tout autre, qu'il est beau, etc. On conçoit souvent l'humilité comme une manière de se regarder soi-même, peut-être même de se mépriser en disant oh, « je ne suis que ça, je ne suis pas grand-chose ». Je crois que le fond de l'humilité, c'est de dire « Dieu est grand ». Et Marie et Joseph, dans leur contemplation de Jésus, étaient en admiration pour la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la petitesse de l'enfant qu'ils portaient dans leurs bras. Et c'est là que leur humilité grandit et se structure. Et alors, l'adoration eucharistique nous permet de rentrer dans cette humilité-là. Or, cette humilité est essentielle pour la vie spirituelle parce que c'est ce qui rend Dieu puissant dans nos vies. Souvent, on est dans des situations d'échec. Par exemple, en ce moment que nous sommes en carême, nous avons tous une liste de péchés que nous reconnaissons d'année en année, des comportements que nous voudrions voir disparaître et qui s'accrochent, hein, qui sont là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque de laisser la puissance de Dieu, de laisser le souffle de l'Esprit purifié. Et il le ferait si nous étions davantage humbles, c'est-à-dire si nous renoncions à notre autonomie. Or, pour renoncer à son autonomie, il faut choisir Dieu pour maître. Pour choisir Dieu pour maître, il faut reconnaître qu'il est Père. Pour reconnaître qu'il est Père, il faut reconnaître qu'il est Dieu, etc. Vous raccrochez tous les wagons de tout ce qu'on a dit et vous vous retrouvez à genoux devant le Saint-Sacrement.
Inderdaad, we kunnen Jezus niet beminnen zonder hem te kennen. We moeten tijd doorbrengen bij iemand om iemand te leren kennen. Elke dag naar de aanbidding komen, is die vriendschap onderhouden. Maar aan de basis van onze beweging ligt ook de bezorgdheid om het hart van Jezus te kunnen troosten, omdat het beledigd en verdriet aangedaan wordt. We kunnen daarbij denken aan de verschijningen in Paray-le-Monial aan de heilige Margriet Maria Lacocq, die ook een plaats hebben in de geschiedenis van onze gemeenschap. We zijn er om tegen Jezus te zeggen, in de naam van alle zielen die hem misprijzen, pijn doen en zich van hem afkeren, zoals we dat zelf natuurlijk ook doen aangezien we allen zondaars zijn, om tot Jezus te zeggen dat we van hem houden en dat onze armzalige liefde en onze levens volledig voor hem zijn. Dit is een ministère, zoals ze in het Frans zeggen, een apostolaat van aanbidding en troost. En dit apostolaat heeft een transformatorische deugd. Dit betekent hoe meer we binnentreden in de contemplatie, des te meer we ons wortelen in het leven van de heilige familie. We spreken vaak over de zwijgzaamheid, de stilte van Sint-Jozef, maar ook Maria praat heel weinig. Het evangelie geeft ons enkele uitspraken van haar, maar er wordt vooral gezegd hoe zij de woorden in haar hart bewaart. Onze beweging is er dus een van stilte. Een contemplatieve beweging, die ervan getuigt dat de nederigheid van Jozef en Maria geworteld is in de contemplatie van God als God. God die groot is, de geheel andere, goede en transcendente. Men denkt vaak dat nederigheid een manier is om naar zichzelf te kijken. Of zichzelf zelfs minachten door te zeggen, ik stel niet veel voor. Maar ik denk dat het fundament van de nederigheid net ligt in de bewondering van de grootheid van God die zich manifesteert in het kleine kindje dat Jozef en Maria in hun armen dragen. De eucharistische aanbidding kan ons dus helpen binnentreden in deze nederigheid die essentieel is voor het geestelijk leven, omdat ze God machtig maakt in ons leven. Momenteel bevinden we ons in de vasten en we hebben allemaal een lijst van gebreken waar we al jaren proberen aan te werken, die we proberen te overwinnen, maar waarin we telkens opnieuw falen. Bepaalde gedragingen die we zouden willen veranderen, maar die heel hardnekkig zijn en die we al lang meedragen. Wat ontbreekt er ons? Het ontbreekt ons aan de kracht en de adem van de Heilige Geest om ons te laten zuiveren. Ze kunnen dit maar doen in de mate dat we nederig zijn. In de mate dat we onze autonomie verloochenen en om dat te doen, moeten we God als onze meester kiezen. En om dat te kunnen, moeten we hem als vader erkennen. En als je zo alles wat we besproken hebben met elkaar verbindt, kom je uiteindelijk terecht geknield aan de voeten van het Heilig Sacrament.
Je vous salue du Joseph, pour que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos bras, des grands sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. We hebben zo net kunnen luisteren naar een gesprek met frère Dominique Joseph van de Famille de Saint-Joseph, de familie van Sint-Jozef, een in Frankrijk gestichte congregatie en geestelijke familie waar vele families en mensen mee verbonden zijn. Ze hebben ook twee kloosters in Frankrijk. Aan het einde heeft frère Dominique Joseph ons nog meegegeven dat ze bijzonder verheugd zijn met dit Sint-Jozefjaar. Ik verwijs u graag door naar de website van de familie van Sint-Jozef. Als u op Google intikt Famille de Saint-Joseph, komt u daar direct op terecht. Iedere woensdag tijdens dit Sint-Jozefjaar, woensdag is de dag toegewijd aan de heilige Jozef, zijn er ook missen die ook te volgen zijn via YouTube. Ze zenden die uit live. En dan wordt er ook gebeden voor alle intenties die aan hun gebed worden toevertrouwd. U kan die intenties via hun website invoeren en dan wordt daar tijdens een mooie viering ook uitgebreid voor gebeden. Iedere woensdag tijdens dit Sint-Jozefsjaar. Ze hebben dit jaar een festival ter ere van de heilige Jozef en dat gaat van 19 tot 21 maart. Iedere vaste zondag hebben ze in de namiddag om 4 uur een vaste conferentie die u kan volgen via hun YouTube-kanaal. En in de zomer zullen ze ook een retraite geven, een week leven in de geest van Nazareth, zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak, het leven in Nazareth beleven. En frère Dominique Joseph zelf predikt ook het paastriduum dit jaar. U zal dat wellicht kunnen volgen online. Hij zal de passie van Jezus, het passieverhaal, het lijdensverhaal, beschrijven vanuit de ogen van Sint-Jozef. En hij haalde ook aan dat dat misschien een verwonderlijk thema is, omdat in de evangelie Sint-Jozef natuurlijk helemaal niet aanwezig was. Maar zoals al eerder gezegd in het interview, is het evangelie een eenheid. Het leven in Nazareth en de dood van Jezus aan het kruis, Kerstmis en Pasen, zijn innig verbonden met elkaar. En dan zal ook de stichter van de gemeenschap, Le Père Verlande, of de Vader Verlinde, een boek publiceren met alles wat er geweten is over Sint-Jozef vanuit de Heilige Schrift, maar ook vanuit het leergezag en de traditie van de kerk. In de 17e eeuw zijn er vooral in Frankrijk ook heel veel interessante dingen gezegd over Sint-Jozef. En Père Joseph-Marie Verlinde heeft dat allemaal samengebracht. En dat zal dit jaar nog gepubliceerd worden. We zullen daar wellicht ook aandacht aan besteden. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de familie van Sint-Jozef, waarin u toch het een en het ander heeft bijgeleerd over de heilige Jozef en wat hij in ons persoonlijke leven kan betekenen. Ik in ieder geval wel. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe.